Alors, frères et sœurs, comme prévu, après un mois de janvier, nous avons beaucoup parlé de la révélation de Jésus-Christ en particulier. Et ce mois de février, nous voulons commencer une autre série de prédications, je vous disais tantôt, sur les 9 échanges. 9 échanges qui ont eu lieu à la croix. 9 échanges, et notre texte de base, c'est Ésaïe 53. Cette série de prédications va nous conduire jusqu'à Pâques. Voilà. Aujourd'hui, ça va être une séance en quelque sorte introductive. Ça va être une introduction à ce message. Pardonnez-moi parce que une introduction à cette série. Pardonnez-moi parce que ça va être peut-être un peu technique, mais c'est aussi important pour poser les bases. Poser les bases, et ça nous permettra d'avoir en perspective la croix de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit dans Ésaïe 53, qui est une prophétie d'ailleurs, hein, 7 siècles avant la naissance de Jésus, et qui retrace très bien ce que le Christ a vécu, a souffert à la croix. Voilà, 9 échanges, mais ce matin, séance introductive. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour le salut, pour ce si grand salut que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ton Fils bien-aimé, lui qui est venu mourir à la croix pour nous. Il n'en avait pas besoin, mais s'il l'a fait, c'est pour que nous, nous soyons sauvés. La Bible dit qu'il s'est livré à notre place. Seigneur, accorde-nous ce matin des cœurs disponibles et disposés, des cœurs à ton écoute, afin de recevoir de toi ce que tu as prévu nous accorder ce matin. Parle-nous, instruis-nous, conduis-nous, redresse-nous, façonne-nous, nous voulons te ressembler. Merci de se saisir de moi, de faire de moi un instrument pour pouvoir bénir ton peuple. Saint-Esprit, manifeste-toi et que toute pensée soit ramenée captive ce matin à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 53. Je vous invite, en tout cas pour ceux qui le peuvent, à se lever en l'honneur de la parole de Dieu. Ésaïe 53, je lirai les versets 1 à 6 et j'ajouterai à cette lecture Hébreux 10, verset 14. Ésaïe 53, 1 à 6, Hébreux 10, 14. Lisons au nom du Seigneur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort de Jésus sur la croix, la mort de Jésus sur la croix était un sacrifice ordonné de Dieu, pardon, ordonné par Dieu, dans lequel sacrifice, en tant que prêtre, Jésus s'est donné lui-même envers Dieu le Père à la place de l'espèce humaine tout entière. La Bible, d'ailleurs, par la bouche de Jean-Baptiste, appelle Jésus l'agneau de Dieu immolé. Bien avant la fondation du monde, voici l'agneau de Dieu. Et le fait que c'était un sacrifice parfait, cela signifie que rien, mais vraiment rien n'a été oublié. Rien n'a été oublié et donc rien ne sera non plus ajouté. Rien n'a été oublié, rien ne sera ajouté. Il est parfaitement parfait ce sacrifice et il est complètement complet ce sacrifice. Tous les besoins, je dis bien tous les besoins de tous les descendants d'Adam, pour ne pas dire de toute la race humaine, en tout cas tous les besoins ont été totalement pourvus à travers ce sacrifice unique de Jésus sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de saisir ce fait. Et il est aussi capital que notre attention ne se détourne jamais de ce sacrifice que le Christ a accompli à la croix. Nous pouvons être engagés, voyez, dans différentes formes d'enseignement, dans différents ministères et dans différentes activités chrétiennes, oui, qui sont bonnes en soi, mais voyez que si toutes ces choses-là sont séparées de la croix, en fin de compte, elles perdent, mais vraiment elles perdent toute leur efficacité. Une image tirée du prophète Ésaïe nous permet d'illustrer le fait que la croix dont il est question ce matin est le centre de toute la provision divine, la croix. De la même manière que nous savons que l'évangile tout entier, voyez, est centré sur la croix, de la même manière, le prophète Ésaïe, voyez, illustre clairement cette vérité. Et j'ai dit 700 ans avant que cela ne s'accomplisse. Il illustre clairement cette vérité que la croix est effectivement au centre. Au centre. Alors, combien y a-t-il de chapitres dans le livre du prophète Ésaïe ? 66. Oui. Et combien y a-t-il de livres aussi dans la Bible tout entière, de l'Ancien au Nouveau Testament? 66. Et ce n'est pas un hasard. 66. Il y a, frères et sœurs, deux grandes parties dans le livre du prophète Ésaïe, selon les exégètes, les théologiens. Facilement, on peut découper ce livre du prophète Ésaïe en deux grandes parties. Les chapitres 1er au chapitre 39 constituent la première partie. Et les chapitres 40 jusqu'à la fin, donc 66, soit 27 chapitres. Or, 39, c'est quoi? C'est le nombre des livres que compte l'Ancien Testament. 39 et 27, de son côté, c'est le nombre des livres que compte le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Vous voyez, d'ailleurs, ces 27 derniers chapitres d'Ésaïe ont été appelés l'Évangile dans l'Ancien Testament. 27 chapitres, l'Évangile dans l'Ancien Testament. Et c'est là que se trouve Ésaïe 53. Ensuite, ces 27 chapitres sont à leur tour divisés en trois grandes parties. Trois séries de 9 chapitres. du chapitre 40 au chapitre 48, ça fait une série de 9 chapitres. Du chapitre 49 au chapitre 57, une série de 9 chapitres. Et enfin, du chapitre 58 au chapitre 66, vous voyez, 3 séries de 9 chapitres. Vous voyez, ce découpage en 3 séries de 9 chapitres est très significatif. Chaque série, vous vérifierez, chaque série finit par une déclaration solennelle. On dirait même que c'est Christ qui parle dans le Nouveau Testament par cette expression « en vérité, en vérité ». Chaque série, je dis, finit par une déclaration solennelle qui dit ceci, que Dieu ne se compromettra jamais avec le péché. Dieu ne se compromettra jamais avec le péché. Le dernier verset du chapitre 48, nous sommes dans la première série. Le dernier verset du chapitre 48 dit « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Point de paix. Les méchants, c'est ceux qui commettent l'iniquité à tour de bras. Il n'y a point de paix pour eux. Il en est de même du dernier verset de la deuxième série du chapitre 57. « Il n'y a point de paix pour les méchant, dit mon Dieu. » Ici, on dit « dit l'Éternel, dit mon Dieu. » Ces deux affirmations sont identiques. Dans le dernier verset, du dernier chapitre donc, du livre du prophète Ésaïe, le chapitre 66, hein, qui clôture le livre, nous lisons ceci. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rébellés contre moi. Car leur ver ne mourra point. » Vous voyez, c'est comme des vers qui rangent, des fruits. Leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Vous voyez, les mots ne sont pas identiques, mais la vérité enseignée est la même. Ceux qui se sont rébellés et qui ne se sont pas repentis seront un spectacle éternel du jugement de Dieu. Du jugement de Dieu. Vous voyez que chacune de ces trois parties de 9 chapitres finit donc par une déclaration solennelle, similaire, identique. Celle que malgré toute sa miséricorde, vous voyez, Dieu ne se compromettra jamais avec le péché qui n'est pas confessé et auquel on ne renonce pas. Il faut renoncer au péché. Il faut confesser les péchés. Oui. Maintenant, regardez. La partie qui se trouve au milieu de ces trois séries composées des chapitres 49 à 57, c'est la partie du milieu. Et le chapitre du milieu de cette partie centrale est Ésaïe 53. Je vous l'ai dit, je viens donc de vous démontrer qu'Ésaïe 53 est le centre de la Bible. Le centre de la Bible. Et puisque le sujet d'Ésaïe 53 est la croix, voyez, donc, la croix de Jésus est au centre de la Bible. La croix de Jésus est au centre de la Bible. Alors, est-ce que la croix, cette croix de Christ, est au centre aussi de nos vies? Voilà la question que nous devons nous poser. Est-ce qu'elle est au centre de nos vies? Est-ce que la croix de Jésus est au centre de notre Église? C'est la question que nous devons nous poser. Vous voyez que même le bébé est en train de répondre à sa manière. Oui, la croix de Christ au centre. Oui, quelqu'un a dit ceci au sujet de l'Église. Vous voyez, l'Église, vous voyez, a tellement d'articles dans sa vitrine, tellement d'articles que l'on ne voit même plus la croix. Elle a disparu, la croix, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, je l'ai dit tout à l'heure, mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Si vous êtes pasteur, en tout cas moi je m'inclus là-dedans, si vous êtes prédicateur ou si vous avez un ministère dans l'église, est-ce que prêchez-vous Christ crucifié? Alors, si cela n'est pas le cas, votre prédication peut sembler intéressante, percutante, mais elle n'aura pas d'effet. Elle n'aura pas d'effet, elle n'aura pas d'impact dans la vie des gens, justement. Elle n'aura pas de puissance. La seule source de puissance, frères et sœurs, c'est la croix. C'est la croix. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25, l'apôtre Paul dit encore, « Car la folie de Dieu, c'est curieux, il parle de la folie de Dieu, est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » La croix, frères et sœurs, c'est donc la folie. Oui, la croix, c'est donc la folie et la faiblesse de Dieu. Folie et faiblesse. Voyez-vous, bien-aimés, que c'est fou que Dieu ait livré son propre fils. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais que Dieu livre son propre fils, c'est fou. Mais c'est pareil d'ailleurs, voyez, pour le sacrifice d'Isaac au mont Morija, Genèse 22. Mais c'est fou d'entendre qu'Abraham s'en allait à cet endroit, mais pour sacrifier son propre fils, dit la Bible, le fils de la promesse, son unique, celui qu'il aime. Mais c'est fou. Alors, qu'est-ce qui pourrait être plus fou pour Dieu que le fait de permettre que son fils soit crucifié par des pécheurs? En outre, qu'est-ce qui pourrait être plus faible que le spectacle d'un homme pendu sur une croix? Jésus était là, faible, le corps lacéré et sanglant, mourant dans l'angoisse, comme nous le dit Ésaïe 53. Oui, Jésus était faible, on parle de l'agneau, quand même, à la boucherie. Bien-aimé, ma Bible à moi m'enseigne que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse de Dieu. Et que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Voilà pourquoi la véritable source de force et de sagesse pour le chrétien se trouve dans la croix. Dans la croix. Sans la croix, nous pouvons avoir une bonne moralité. Sans la croix, nous pouvons avoir de bonnes intentions et beaucoup de bons sermons, de bonnes prédications, mais nous n'aurons pas des résultats probants. La Bible dit par une seule offrande, c'est-à-dire par le sacrifice de la croix, Christ a amené à la perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifié. Hébreux 10, 14. Vous voyez l'expression, il a amené à la perfection pour toujours. L'expression amené à la perfection est au passé composé. C'est seulement une fois que ce sacrifice a été offert. Une fois. Et il ne sera jamais réitéré. Je disais qu'il est parfait et justement rendra aussi parfait. Ce sacrifice est parfait et rendra parfait tous ceux qui mettront leur foi en lui. Ce que Jésus a fait et ses effets en nous est parfait, complet, pour toujours, pour toujours. Nous ne pouvons rien en enlever. Nous n'avons pas besoin d'ailleurs de rajouter quoi que ce soit. Ce que Dieu a fait est complet, parfait et définitif. Définitif. Nous n'aurons jamais besoin de le changer ou de le modifier, mais nous devons justement nous en approprier. Nous devons nous en approprier et ceci de façon progressive, chaque jour, surtout lorsque nous soulignons la perfection de l'œuvre de la croix, chaque jour. Alors, vous pensez peut-être que vous n'avez pas la perfection dont il est question et la sanctification. Mais voyez que la vérité est que personne ne l'a. Personne n'a ces choses, la perfection et la sanctification. Notre sanctification est progressive. Nous devons travailler à cela tous les jours. Nous sommes de ceux qui nous approchons progressivement de Dieu chaque jour et en nous séparant toujours de plus en plus du péché et du monde. Toujours de plus en plus. Et en recevant justement de plus en plus de Dieu dans notre vie. Chaque jour. Voilà ce que la révélation de la croix fait pour nous et en nous. Je disais que la croix est au centre. Et Ésaïe 53 est le centre de la Bible. Mais la prophétie commence vraiment avec les trois derniers versets du chapitre 52. Au verset 13 du chapitre 52, il est dit « Voici, mon serviteur agira sagement. » Voici, mon serviteur agira sagement. Le mot « voici » introduit donc les mots « mon serviteur ». C'est le titre qui est donné à Jésus dans cette prophétie des années 50. « Mon serviteur ». En regardant dans la Bible, si vous ajoutez les trois derniers versets du chapitre 52 au 12 du chapitre 53, en tout cas, vous obtiendrez cinq séries de trois versets, en quelque sorte. En gros, cinq séries de trois versets. Ésaïe 52, vous avez le verset 13 à 15. Et deuxième série, Ésaïe 53, 1 à 3. Troisième série, Ésaïe 53, 4 à 6. Quatrième série, Ésaïe 53, 7 à 9. Et dernière série, Ésaïe 53, 10 à 12. Ce sont des séries de trois versets. Alors, vous voyez que le verset crucial se trouve dans la série du milieu, c'est Ésaïe 53, 4 à 6. Je disais que le verset central se trouve dans la série du milieu de ce chapitre 53. Et c'est le verset 6 qui dit « Nous étions tous errants comme des brebis. » Et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Verset 6. Voilà le verset central de la Bible. Verset 6, Ésaïe 53. Et à partir de ce verset, nous pouvons nous poser la question suivante. Quel est le problème de l'espèce humaine? Quel est le problème de l'espèce humaine? Qu'avons-nous tous, mais vraiment tous, fait? La Bible dit, voici le diagnostic. Nous n'avons pas tous commis l'adultère, nous n'avons pas tous été ivres, nous n'avons pas tous volé, mais il y a une chose que nous avons tous faite, une chose, celle d'avoir cherché notre propre voie, celle d'avoir cherché notre propre voie qui n'est pas celle de Dieu. Et Dieu appelle cela l'iniquité. L'iniquité. Voilà comment Dieu appelle cela. Dans le français moderne, le meilleur mot équivalent de iniquité est rébellion. La racine du problème de l'humanité, c'est la rébellion contre Dieu. La rébellion contre Dieu, c'est un problème universel. Universel. Mais, frères et sœurs, le merveilleux message, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a mis sur Jésus, l'iniquité, c'est-à-dire la rébellion de nous tous. Voilà le merveilleux message. Il y a une traduction qui dit que Dieu a fait se rencontrer sur l'iniquité de nous tous. Dieu a fait se rencontrer en lui l'iniquité de nous tous, de tous les hommes et de toutes les époques. Donc, Dieu a fait que l'iniquité de nous tous se rencontre en lui, en la personne de Jésus. Notre iniquité et notre rébellion sont venues sur Jésus quand il était pendu à la croix. Dans Ésaïe, au chapitre 1, au verset 2, c'est l'Éternel qui dit ceci à propos des enfants d'Israël, en parlant de la rébellion. Mais ils se sont révoltés contre moi. Ensuite, dans les versets 5 et 6, l'Éternel donne une image vivante des conséquences de cette rébellion. Il dit, la tête entière est malade. La tête entière. et tout le cœur est souffrant. La matière est malade et tout le cœur est souffrant. C'est la rébellion et toutes ses conséquences néfastes. C'est aussi une image exacte de ce que Jésus a subi sur la croix. C'est une image exacte de Jésus sur la croix. Comparons cela avec deux versets d'introduction d'Ésaïe 53. Donc, Ésaïe 52, verset 13-14. « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Vous voyez que son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. L'aspect physique de Jésus était tellement bouleversé qu'il en avait perdu toute apparence humaine. De la tête aux pieds, ce n'était que blessure, contusion et plaie vive. Pourquoi était-il défiguré tant son aspect différait de celui des fils de l'homme? Pourquoi? Mais parce que c'est le résultat de la rébellion. C'est le résultat de la rébellion. Par une image vivante, Dieu nous communique le fait que sur la croix, Christ a porté notre rébellion ainsi que toutes les conséquences néfastes. Bien-aimés, en tout cas, moi, pour ma part, je ne crois pas aux belles images religieuses de la crucifixion. Vous voyez ces films où il y a des belles images de la crucifixion. Je ne crois pas. Mais la Bible est claire, mais c'était des meurtrissures, des blessures et des plaies vives. Les blessures étaient ouvertes et elles étaient infectes. Mais pourquoi? Mais parce que notre rébellion était sur lui. La prochaine fois, voyez que vous et moi serons tentés de nous rébeller, et que cela n'arrive pas, mais que Dieu puisse nous montrer une image de la fin de la rébellion. Christ pendu sur la croix pour nous. Jésus, en tant que dernier Adam, a pris cette rébellion, est mort, et a été enterré avec elle. Lui, la rébellion a été enterrée avec le Christ. Et quand il est ressuscité en tant que second Adam. Pardon, en tant que second homme, le chef d'une nouvelle espèce avec la résurrection. Merci Seigneur Jésus parce que à la croix, il a porté notre rébellion et toutes ses conséquences néfastes. Frères et sœurs, en tout cas, ne croyez pas les belles images religieuses de la crucifixion. C'était des blessures, des meurtrissures, des plaies ouvertes. Les blessures étaient ouvertes, elles étaient certainement infectées. Je disais pourquoi? Mais parce que notre rébellion était sur lui. La prochaine fois que vous et moi serons tentés de nous rébeller, que Dieu nous montre en tout cas une image de la fin de la rébellion. Que nous ayons la croix de Christ devant nous. Jésus, en tant que dernier Adam, a pris cette rébellion. Il est mort et il a été enseveli avec notre rébellion. Et quand il est ressuscité, je disais, en tant que second Adam, le chef d'une nouvelle espèce. Espèce nouvelle. Ainsi, frères et sœurs, lorsque nous regardons Ésaïe 53, nous comprenons que l'Éternel a fait reposer sur le serviteur souffrant la rébellion de nous tous. Le châtiment de notre rébellion et toutes les conséquences néfastes de la rébellion. Cela conduit à une vérité fondamentale, à une clé qui ouvre en quelque sorte tous les trésors, les provisions de Dieu. À la croix, bien aimé, un échange divinement organisé, orchestré a eu lieu. Un échange prédit à l'avance par Dieu lui-même. C'est très simple, mais vous voyez que c'est très profond. Tout le mal qui devait retomber sur nous, je dis bien tout le mal qui nous était dû à cause de la justice et qui devait venir sur nous est allé sur Jésus. Afin que tout le bien qui lui revenait à cause de son obéissance sans péché nous soit accessible. que c'est merveilleux ce que Dieu fait. Il nous faut maintenant énumérer les 9 aspects de l'échange qui a eu lieu justement à la croix. Premier aspect de l'échange, Jésus a été puni afin que nous soyons pardonnés. Puni afin que nous soyons pardonnés. Deuxième aspect, Jésus a été meurtri afin que nous soyons guéris. Je rappelle que ce sont des choses qui ont déjà eu lieu. Hein. Il ne s'agit pas des choses qui vont avoir lieu, mais déjà eu lieu. Troisième aspect, Jésus a été fait péché. Oui, de notre nature pécheresse, afin que nous soyons rendus justes par sa justice. Quatrième aspect de l'échange, Jésus est mort à notre place pour que nous puissions partager sa vie en abondance, la vie éternelle. Cinquième aspect de l'échange, Jésus a été fait malédiction justement afin que nous recevions la bénédiction. Sixième aspect, Jésus a enduré la honte. Et la honte, il a enduré, non pardon, c'est d'abord la pauvreté. Il a enduré la pauvreté afin que nous puissions partager son abondance. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et septième aspect, Jésus a porté notre honte. Oui, afin que nous partageons sa gloire. Sa gloire. Huitième aspect, Jésus a souffert notre rejet. Notre rejet afin que nous bénéficions de son acceptation. De son acceptation. Et enfin, neuvième aspect de l'échange, notre vieil homme est mort en Jésus afin que le nouvel homme puisse vivre en nous. Nouvel homme. Bien-aimé, l'homme ne pourra jamais trouver une raison pour mériter toutes ces choses, pour mériter cet échange. Personne. C'est uniquement le résultat de la grâce souveraine de Dieu. C'est l'expression de son amour immense, de son amour incommensurable, un amour que l'on ne peut pas mesurer. Et lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, frères et sœurs, le mot-clé, c'est la grâce. La grâce. La grâce est quelque chose que vous ne pouvez jamais gagner ni mériter. Vous voyez, la plupart, justement, des gens religieux ne jouissent pas de la grâce de Dieu, mais parce qu'ils essaient de l'obtenir par leurs propres efforts, par leurs propres moyens. Et ce n'est pas possible. Ce qu'ils oublient, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de gagner ce que Dieu a fait pour nous à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix. Pas possible. Il n'y a qu'une façon de la recevoir, c'est en croyant. Arrêtons d'essayer de la gagner, arrêtons de nous persuader, en tout cas, que nous sommes assez bons. Nous ne le sommes pas et nous ne le serons jamais. La seule façon de recevoir la provision de Jésus sur la croix, c'est par la foi. Nous devons croire en lui. Alors la question qui me vient à l'esprit, mais pourquoi Dieu a-t-il envoyé son propre fils à la croix à notre place? Pourquoi? Il l'a fait, mais parce qu'il nous aime, nous dit la Bible. Il l'a fait par amour, parce qu'il nous aime. Mais pourquoi nous aime-t-il? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous aime-t-il? Alors, à cette question, la Bible n'offre pas d'explication. Pourquoi Dieu nous aime? Dieu ne nous donne pas de détails. Et nous pouvons passer toute l'éternité, mais vraiment toute l'éternité, à chercher à découvrir, mais pourquoi Dieu nous aime? Pourquoi? Pourquoi? Nous ne le méritons tout simplement pas. Nous ne l'avons pas gagné et il n'y a rien en nous pour justifier son amour et donc cet incroyable sacrifice. C'est un choix souverain du Dieu Tout-Puissant. En considérant donc la provision de Dieu, il est important pour nous de comprendre deux titres de Jésus. Deux titres. Premièrement, c'est 1 Corinthiens 15, 45, il est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam. Et le verset 47, toujours de 1 Corinthiens 15, le verset 47 nous dit ceci, « Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel, le Seigneur du ciel. Donc Jésus est donc appelé d'abord le dernier Adam et ensuite le second homme. Dernier Adam, second homme. Nous devons bien mettre ces titres dans le bon ordre parce que si nous les citons pas correctement ou si nous les mettons dans le mauvais ordre, cela n'a pas de sens, cela n'a plus de sens. Sur la croix, Jésus était le dernier Adam sur la croix. Il n'était pas le dernier dans le temps, puisqu'il y a eu des milliers de descendants d'Adam qui sont nés depuis. Mais il était le dernier dans le sens que l'héritage mauvais de notre nature de péché, de notre nature pécheresse, est tombé sur lui à la croix. Et c'est là que cet héritage s'est arrêté. Quand il a été enseveli, il a été enseveli avec lui, cet héritage. Notre nature mauvaise héritée d'Adam a été donc éliminée à la croix. Elle est terminée hors de notre champ visuel. Quand Jésus est ressuscité, il l'a été en tant que second Adam, une nouvelle espèce d'homme. Il y a un premier Adam, il y a un second, une nouvelle espèce d'homme. C'est le commencement d'une espèce qu'on appelle espèce Emmanuel. Vous savez, Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, Dieu avec nous, l'espèce de l'homme en Dieu. Avec la résurrection de Christ, l'espèce de l'homme en Dieu, celui qui est né, et c'est pour ça que la nouvelle naissance est très importante, celui qui est né de nouveau par la foi dans la mort et la résurrection de Jésus, prend part à cette nouvelle espèce Emmanuel. Nous devons nous assurer que cela soit bien clair pour chacun d'entre nous, la nouvelle naissance. J'ouvre une parenthèse en disant, voyez, on pose la question, est-ce qu'un chrétien peut perdre la foi? Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Mais quand vous avez l'espèce Emmanuel, vous allez être déchu de ça. Mais ce n'est pas possible de revêtir la nature divine et de la perdre ensuite. Mais Dieu vous donnera la capacité de persévérer jusqu'au bout. Vous avez sa nature. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 11, 36, mais les dons de Dieu, l'appel et les dons sont irrévocables. Mais la vie éternelle, c'est un don. Jésus a bien dit qu'il nous donne la vie. Les dons sont irrévocables. On ne peut jamais perdre le salut. Lorsqu'on a revêtu la nature divine, mais c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Oui, nous devons nous assurer que cela soit bien clair, que nous sommes nés de nouveau. C'est le plus important, le chapitre 4 avec Nicodème, le chapitre 3, pardon, l'évangile de Jean. Il faut que ça soit bien clair que nous sommes nés de nouveau. Imaginez Jésus sur la croix, le dernier Adam, la fin de tout. Bien aimé, il n'y avait pas d'autre moyen pour notre espèce d'échapper aux conséquences néfastes de ce que nous avions fait. Quand le Christ est ressuscité, le troisième jour, c'était le commencement d'une nouvelle espèce, je disais, celle de l'homme en Dieu. L'homme en Dieu. Il n'y a qu'une divinité pour sauver une divinité. Une espèce dans laquelle l'homme et Dieu, Dieu et l'homme, se mélangent mystérieusement dans une nouvelle création. C'est ce que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, l'apôtre Pierre compare la résurrection à une naissance de la mort, quand on sort de la mort, la résurrection. Et dans Éphésiens, chapitre 1, verset 22 et 23, l'apôtre Paul, de son côté, décrit Jésus comme le chef suprême de l'Église, qui est son corps. C'est une belle image parce que lors d'une naissance naturelle, vous voyez, la partie du corps qui émerge en premier, c'est la tête. C'est la tête, cette dernière, donc la tête est donc la garantie que le reste du corps va suivre. Mais le Christ est ressuscité, le reste du corps va suivre. Quand Jésus-Christ, en tant que tête de l'Église, est sorti du séjour des morts, est ressuscité des morts, mais il est devenu la garantie de notre résurrection. Il est mort en tant que dernier Adam et il est ressuscité en tant que second Adam. Ainsi, frères et sœurs, Ésaïe, au début d'Ésaïe 53, Ésaïe l'appelle le bras de l'Éternel. Qui a connu le bras de l'Éternel, dit le prophète Ésaïe. Oui, Jésus, dont il est question, est le bras de l'Éternel. Et chaque fois que nous voulons faire quelque chose, voyez, nous utilisons souvent notre bras. Il en est de même pour Dieu. Chaque fois qu'il veut accomplir quoi que ce soit, il utilise son bras, c'est-à-dire son fils. Oui, son fils est son bras. Le fils est le bras puissant de Dieu. Ainsi que Jésus, le bras de l'Éternel, nous vienne au secours et nous sauve. Et qu'il mette dans nos cœurs la croix toujours en perspective et cette conviction que nous appartenons à Dieu. Et lorsque nous appartenons à Dieu, c'est pour l'éternité, c'est pas pour un temps. C'est pour maintenant et pour toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Un temps de recueillement et nous partagerons le repas du Seigneur. Nous allons partager le repas du Seigneur qui est le repas du souvenir. Selon que Jésus a dit lui-même au sujet de ce repas à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Souvenons-nous donc, frères et sœurs, que toutes les grandes vérités de la foi chrétienne et toutes les bénédictions d'ailleurs dont nous sommes gratifiés, tant dans la vie présente que dans la vie à venir, et pour lesquelles bénédictions nous glorifions Dieu, en tout cas toutes ces bénédictions découlent uniquement de la croix sur laquelle Christ a versé son sang. D'ailleurs, si nous avons reçu le précieux Saint-Esprit, c'est Christ qui nous en a acquis le privilège à la croix. Et si nous jouissons de ce qu'on appelle la communion des saints, que nous pouvons nous rassembler pour célébrer notre Dieu ensemble avec des frères et sœurs, c'est aussi Christ qui nous en a acquis le privilège à la croix. Oui, nous pouvons célébrer la croix et nous devons célébrer la croix à chaque instant. Nous n'avons rien en dehors de la croix. Si Dieu veille sur nous dans sa fidélité, sa miséricorde, oui, c'est Christ qui nous en a acquis le privilège à la croix. Et si nous sommes remplis aussi de cette espérance de la vie éternelle, mais Christ nous en a acquis le privilège à la croix de Golgotha. Et si nous attendons justement son retour, comme on l'a chanté, Maranatha, viens Seigneur, viens. Oui, nous avons cette espérance au-delà de nous, mais c'est Christ qui nous en a acquis le privilège à la croix. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu as tout accompli. D'ailleurs, tu as dit à la croix, tout est accompli. Seigneur, viens accomplir tout aussi dans la vie de chacun d'entre nous. Nous voulons confesser encore autour de ce repas que nous t'appartenons, que nous sommes à toi, que tu es tout pour nous. Merci de nous accepter tel que nous sommes autour de cette table que tu as préparée toi-même. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce si grand salut que tu nous as accordé. Amen.